Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est votre énervé qui fait coup double chaque soir. Je vous explique encore une fois, ça commence à 18h en avant-première sur franceinter.fr et donc en podcast. Et puis 22h minuit, ça passe à l'antenne comme tout le monde. Un énervé surbooké ce soir, quatre invités, ils ont en commun leur jeunesse et leur radicalité. John Rashi, youtubeur, plus d'1 300 000 abonnés et je ne parle pas des 60 millions de vues pour votre chaîne au programme Rap Humour. Et puis aujourd'hui, une collaboration avec l'Opéra de Paris. C'est Le Fantôme, un court-métrage pour la plateforme Troisième Scène. John Rashid, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Ludmila Dabo s'identifie à Nina Simone dans une pièce militante et autobiographique. Portrait de Ludmila en Nina Simone, c'est le titre. C'est deux parcours de combattante du théâtre chanté, documentaire, pour bien porter la voix et se faire entendre. Ludmila Dabo, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés encore et qu'ils m'entourent, ils sont deux, Caroline Poggi et Jonathan Vinel pour leur premier film sorti en salle aujourd'hui, Jessica Forever, un conte contemporain, celui de Jessica, une sorte de magicienne paramilitaire qui recueille des enfants perdus, des monstres violents. Sera-t-elle les protéger d'eux-mêmes et d'une société qui les pourchasse? Esthétique froide, pavillonnaire, univers proche des jeux vidéo, un film stylé et stylisé. Caroline Poggi, Jonathan Vinel, bonsoir.
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 Mercredi, c'est votre jour sur Au Solo pour l'Afrique en Solo, la chronique. Ce soir, voyage, voyage, du Mali à Cuba. Mais pourquoi?
Ben, Laurent, je dois vous proposer de visiter, découvrir ou redécouvrir le légendaire groupe Maravillas de Mali.
Parfait. Et dans le énervé la suite, RER, 40 ans que ça rame, Benoît Lagane.
Oui, vous l'aimez bien votre titre. Hein,
oui, oui, j'aime bien.
Un voyage dans le RER, effectivement, à l'heure du Grand Paris, en ce jour un peu compliqué dans les transports parisiens, manifestation du 1er mai oblige. Et pour en parler, les auteurs de deux livres qui viennent de paraître sur le sujet, Marie-Hélène Baquet, auteur de Retour à Roissy, un voyage sur le RERB, et un trio du passager du RER, l'urbaniste Marine Buffat, l'ethnologue Adrien Poyati et l'écrivaine Lola Nicole.
Parfait, on vous retrouve tout à l'heure.
À tout
vous
à l'heure.
Ne vous oubliez pas.
Non.
Non. C'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on commence avec vous, John Rashid. Vous le connaissez tous et toutes autour de la table?
Absolument pas.
Parfait, très bien. Il a 1 600 000 abonnés, moins une, qui est Ludmila Dabo, et du côté de Jonathan et de Caroline, non plus.
Vous avez encore du boulot, ça veut dire c'est bien.
Ben oui, ça veut dire qu'il y en a trois qui vous connaissent plus ce soir.
Mais j'ai encore beaucoup de boulot.
Profession youtubeur, comédien, vidéaste, humoriste, avec plus d'un million d'abonnés sur votre chaîne YouTube qui a été créée. J'ai regardé le 23 janvier 2011, mais ça dépend les
En fait, pour être très technique, c'est une deuxième chaîne. J'avais créé la première en 2007, je me suis fait supprimer cette chaîne.
Mais quelle raison?
Je me suis fait pirater, mais vraiment à l'époque, donc voilà.
Pirater, ouais, c'est-à-dire
c'est quelqu'un qui a pris
votre chaîne.
Ma chaîne et qui l'a supprimée à l'époque où je faisais déjà des vidéos sur cette chaîne. Donc c'est une deuxième chaîne que j'ai créée. D'ailleurs, tout a été uploadé, les premières vidéos, le même jour. Mais voilà, personne ne connaît trop cette histoire, mais c'était une deuxième chaîne.
Et la deuxième chaîne, vous l'avez protégée pour que...
Ouais, après, quand j'ai commencé à travailler bien avec YouTube, ils m'ont sécurisé toute la chaîne. Il n'y a plus moyen du tout de la pirater.
Je savais même pas qu'on pouvait supprimer comme ça des chaînes sur YouTube.
À l'époque,
c'était quoi l'idée au départ de cette chaîne YouTube?
En fait, moi, j'ai commencé comme comédien, très rapidement.
Bah, oui.
J'ai fait un téléfilm pour Bernard Stora sur France 3. Et ça s'appelle Le Troisième Jour. Et j'ai commencé comme comédien. Et puis, moi, venant de Lyon, j'ai été casté en sauvage dans les rues de Lyon. Et je connaissais pas ce métier. J'ai été pris très vite. Et dans ma tête, j'ai fait, bon, bah, ça y est, je vais faire ça toute ma vie. C'est bon. Après ce téléfilm, je vais enchaîner les films. C'est normal. Je suis comédien maintenant. Je suis acteur. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe.
Qu'est-ce qui a résisté, en fait?
Qu'est-ce qui a résisté de cette époque?
Ouais, qu'est-ce qui a résisté pour le fait que ça ne se poursuive pas, que vous ne puissiez pas continuer à être comédien?
Je suis à Lyon.
Ouais, ça, c'est une raison.
Je suis à Lyon. Je faisais pas forcément les castings, j'avais pas d'agent et du coup moi je me suis dit bon bah en fait non, ça se passe pas comme ça, et je pensais qu'on enchaînait les films vraiment. Je pensais vraiment que quand on faisait un film derrière on fait bah tu vas en faire un autre, tu vas en faire un autre, tu vas en faire un autre. Ça se passe absolument pas comme ça et du coup j'ai dit bon bah je ne fais rien, j'ai pas d'agent, je suis à Lyon, je suis encore je travaillais en vendeur à France Télécom. Donc au lieu de ne rien faire, j'ai décidé de proposer mes propres créations sur la plateforme YouTube à l'époque.
Et quelle sorte d'émission vous proposiez au départ?
Bon, au début, je faisais plutôt des parodies en sauce bled. Donc, j'avais fait MacGyver du bled, j'avais fait K2000 du bled, j'avais pris tous mes trucs de mon époque, parce que j'ai 34 ans quand même.
Ce qu'on voyait à la télévision.
Voilà, ce que je voyais à la télévision quand j'étais petit. Et j'avais tout fait ça version bled. Et puis, ça m'éclatait. Et puis surtout, ça me permettait de jouer d'avoir des rôles qu'on me proposait pas. Mais en fait, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. C'est après que c'est arrivé, les choses où j'ai fait du truc un peu plus concret.
autour du rap notamment, ouais. où vous donniez non pas des conseils mais des critiques de rap, c'est-à-dire ouais. que vous regardiez ce qui était le bon et le mauvais rap, et le mauvais rap était à l'époque pour vous des gens comme Booba, Kaaris ou d'autres, mais vous êtes fait lyncher à ce moment-là ou ça a bien pris?
Non, ça allait, enfin oui, forcément il y a certaines parties du public qui lynchent, mais en fait moi je suis un grand nostalgique, je viens de IAM, NTM, enfin des personnes qui écrivaient, Oxmo Puccino, MC Solar, des personnes qui écrivaient vraiment, et je déplorais avec humour le fait qu'aujourd'hui bah la plume c'est pas ce qui importe le plus pour certains rappeurs. Du coup, je déplorais ça et ça a bien marché. Et c'est ce qui m'a permis de me faire connaître.
Vous avez jamais essayé d'en faire vous-même?
Si, j'ai fait 2-3 vidéos de rap.
Ouais, ouais, et alors?
Bah, je suis plus fort qu'eux. Je suis forcé de constater que je suis plus fort qu'eux. Non, oui, je fais ça pour m'amuser, hein, c'est pas du tout mon métier.
Et le fait de vouloir quand même être comédien, parce que c'était ça à la base, est-ce que c'est quelque chose que vous avez poursuivi par la suite?
Alors, ouais, parce que, en fait, dans chaque chose que je fais, c'est entrecoupé de sketchs, donc de jeux.
Bien entendu, ouais.
Donc des moments de jeu. C'est comme sur scène, en fait. Quand je fais un face cam, dans ma chambre, je fais le face cam, je parle, et hop, je coupe et je fais un sketch. Comme sur scène, à un moment, on parle aux gens, sur un stand-up, tu parles aux gens, tu t'arrêtes, tu fais un personnage, et tu reviens dans le parler face aux gens. Et c'est ça, en fait, dans tout ce que j'ai fait, il y a toujours eu du jeu. C'est parce que c'est primordial pour moi. Je suis comédien, je fais pas autre chose. Je me sers des vannes en parlant devant en face caméra, mais il y aura toujours du jeu dans tout ce que je fais, parce que j'aime le jeu et parce que c'est ce qui me fait vivre et c'est ma passion, quoi.
Caroline Poggi et Jonathan Vinel, vous êtes clients de YouTubeurs, vous regardez certains? Jonathan?
Non,
pas du tout.
Pas du tout.
Alors vous êtes partie de cette génération. Mais ouais. Caroline non plus?
Non, mais en fait c'est aussi différent. C'est YouTube, c'est un peu la représentation du monde entier, donc il y a un milliard de choses à regarder sur YouTube. Et c'est vrai que moi je regarde pas non plus les chaînes YouTube, etc. Après je suis tout le temps sur YouTube à checker des clips ou des vidéos qui vont passer comme ça d'infos. Enfin, en fait, finalement YouTube il est partout. C'est pas que YouTube, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est quelque chose qui c'est une galaxie en fait.
Et vous, Ludmila?
Non, je suis assez ignorante également.
C'est parfait.
Mais moi le premier, je regarde pas beaucoup de vidéos YouTube finalement, je regarde que des trucs sur le cinéma. Il y a des youtubeurs cinéma qui sont très très forts,
qui sont excellents
et donc moi je consomme plutôt ça. Les autres youtubeurs à part mes amis donc Norman, Cyprien, etc.
Bah quand même, ouais, Norman, Cyprien, ouais,
mais c'est des amis. Les seuls, ce sont des noms. Voilà, ce sont des noms, j'ai jamais eu la curiosité, je dois
avouer. Il faut aller voir, ils sont forts.
De découvrir davantage.
Alors même qu'ils sont passés sur scène d'ailleurs, oui, et aujourd'hui du côté du cinéma.
Oui, bien sûr. Mais moi je suis pas vraiment consommateur de youtubeurs, à part les amis, parce que c'est des amis, mais les autres, je regarde pas vraiment, et à part les youtubeurs cinéma, je regarde pas vraiment. Moi, je me concentre sur mon truc, et puis je fais mes choses. Et comme elle l'a très bien dit, c'est immense YouTube. Youtubeurs, c'est pour ça que j'aime pas trop ce terme, ça réduit à une chose. Maintenant, il y a tout sur YouTube.
Est-ce que ça a pu apporter quelque chose à votre carrière de comédien? Est-ce qu'on a fait appel à vous après avoir été visionné autant de fois?
Bizarrement, non, parce qu'il y a ce fameux problème de fourre-tout. En fait, quand on est youtubeur, quand on dit youtubeur, on met sur la même ligne que quelqu'un qui va manger du marron pendant 24 heures. C'est la nouvelle mode en ce moment. Du marron pendant 24 heures.
Ça me rappelle les radios libres du départ. Voilà, il y avait un mec qui comptait chaque jour. Voilà. Quand il n'était pas là, c'était sa femme qui continuait à compter. C'était ça, la radio libre.
Et c'est exactement pareil sur YouTube. Il y a plein de choses comme ça. Et on met à la même hauteur que ça, alors que non, moi j'écris, je propose du jeu, de la mise en scène, il y a des trucs. Donc pour l'instant, on a encore cette case, mais de toute façon, on a besoin de cases en France, ça s'est toujours passé comme ça. Mais moi, mon travail est de prouver que d'une, je sais jouer, de deux, je sais écrire, et de trois, je peux créer des choses.
Ah bah, la preuve avec plusieurs choses, on va en parler tout de suite. D'abord, quelque chose sur votre nom, John. Il y a eu plusieurs avatars, hein, mais notamment ce John qui reste aujourd'hui, John Rachid, c'est J-H-O-N. Pourquoi avoir mis le H juste après le J? C'est quoi l'histoire?
C'est une erreur de cancre, en fait.
Non.
Je vous assure.
Non, c'est pas possible.
C'est la première fois que j'ai fait une vidéo qui s'appelait Dallas du Bled, et c'était une parodie de Dallas,
JR.
De JR, et JR Wing, et au montage, alors à l'époque, maintenant je me suis, avec les réseaux sociaux, ça m'a aidé pour mon orthographe. Aujourd'hui, je sais écrire. À l'époque, je galérais un peu, j'avais pas fait beaucoup d'études, et du coup, j'avais mis le H avant le O, quoi, et c'était pas du tout la bonne orthographe, et quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais j'ai fait exprès, en fait, évidemment.
Mais c'est comme ça que c'est devenu une signature aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant dans ce parcours de youtubeur, même si aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir un parcours beaucoup plus engagé. En 2017, vous signez un court-métrage particulièrement remarqué qui s'appelait « Jour de pluie », qui évoquait le massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 1961. On vous avait raconté cette histoire, alors même qu'elle est tue. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle est dans les programmes
d'histoire.
Moi, je sais qu'à l'époque, il n'y avait rien du tout
sur cette histoire. Il n'y avait rien dans mon époque aussi. Il y avait rien dans mon époque. Ouais, c'est ça qui m'a motivé en fait. C'est que j'ai appris ça avec Internet. Je voyais que le 17 octobre, chaque 17 octobre, il y avait des articles sur Internet qui parlaient de ça. Et je fais mais comment, pourquoi moi à l'école j'ai pas entendu parler de ça. Et j'ai fait ce constat-là et je me suis dit mais il faut en parler en fait. Et moi je sais que je touche les jeunes. C'est la force qu'on a en tant que YouTuber.
Ouais.
Et eux forcément ils ont pas forcément accès à ça non plus parce que je sais pas comment c'est aussi aujourd'hui les manuels scolaires. Mais en tout cas à mon époque il y avait pas. Et donc je me suis dit le mieux à faire et c'est ce que je fais avec mon travail constamment, c'est d'intéresser les jeunes à des choses où ils n'ont pas accès à ça en fait à la base. Et du coup j'ai fait ce court-métrage sur la guerre d'Algérie avec Gilbert Melki.
Exactement. Et ouais. Ça a déclenché quelque chose au niveau justement des commentaires qu'il y a pu avoir, des réactions.
Ouais, les réactions étaient assez dingues et c'était vraiment bien. Et puis ça a déclenché plein de choses. Ça a déclenché Troisième Scène et le Fantôme de l'Opéra. Ça a déclenché une crédibilité que j'avais pas forcément à la base en faisant des vidéos sur le rap. Ça a déclenché toutes les choses que je voulais et surtout ça a déclenché un souvenir marqué. Chaque 17 octobre aujourd'hui on partage ma vidéo et je sais que ça restera et c'est ce que je fais YouTube pour ça moi, pour que ça reste, pour donner des messages et pour que ça reste.
Vous comprenez la démarche j'imagine, Lumila Dabo, quand on parlera de votre spectacle tout à l'heure qui a aussi cette dimension militante.
Oui, absolument. C'est très drôle quand j'entends que c'est un spectacle militant parce que je crois que je l'envisage absolument pas comme ça.
Mais vous verrez quand même que cette dimension-là est absolument présente. Donc aujourd'hui, un nouveau court-métrage pour vous, Jeune Rachid, et La Grand Écart. C'est une commande de l'Opéra de Paris pour sa plateforme qui s'appelle Troisième Scène. Titre Le Fantôme, extrait.
Rendez-vous.
Putain, t'as vu ? Il y avait un arabe.
Comment ça, un arabe?
Je te jure.
Mais t'es sûr que c'est pas le fantôme?
Mais non, je te dis que c'était un arabe. Bon, allez, on reprend. Ah, là, il y en a un autre! Un jeune, avec un survêt et des baskets, comme en banlieue. Faut que j'appelle la sécurité, là. Non, mais reste pas ici. Il y a des arabes dans l'opéra. Sécurité!
En fait, il y en a peu quand on va à l'opéra, je peux vous dire.
C'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais. Là, c'est Jean-Baptiste Monnier qu'on entend, ouais. le petit choriste qui a bien grandi, et Alexia Giordano qui fait la danseuse. Et ouais, c'était ce constat qu'on avait fait. En fait, on a écrit ce scénario avec mon réalisateur Antoine Barrio. C'est lui qui est venu me proposer ce projet et Karim Boukercha qui écrit avec Gavras, qui a écrit Le Monde est à toi là dernièrement.
Ouais.
Et donc, on a écrit ce scénario et on a fait ce constat-là. Ouais, clairement, les Arabes dans l'opéra, ça.
Il y en a déjà très peu dans le corps de ballet. Et comme il y en a peu sur scène, ouais. Et ben il y en a peu dans la salle. C'est aussi ça. Simple que ça.
C'est
hein, ça. Le constat.
Ça. Ouais. C'est exactement ça. Ça intéresse peu. Et on s'est dit pourquoi pas intéresser. Et puis le film parle aussi de. Il y a un masque. C'est le fantôme de l'opéra.
C'est le fantôme de l'opéra. C'est la grande histoire du fantôme de l'opéra.
C'est ça.
La
revisiter avec un mec de banlieue que deux générations de mecs de banlieue. Donc moi, enfin mon personnage Sofiane et Youssef Hadji qui joue le fantôme. Et deux générations, une qui se cache sous le masque et la deuxième moi qui ne veut plus se cacher et qui montre. Enfin, ça raconte ça. Quand on regarde le film, on comprend ça. Enfin, j'espère qu'on comprend ça. Donc voilà, ouais, c'est deux générations et intéressé à l'opéra, chose qui m'intéresse pas à la base, on va pas se mentir. Hein. Moi, j'aime juste Roberto Alagna. Voilà, tout ce que je connais de l'opéra, je kiffe Roberto Alagna, c'est tout.
Pour quelle raison vous kiffez Roberto
j'adore,
Alagna?
J'adore ses musiques, vraiment, ouais. Il me touche et puis il a un parcours particulier, j'aime beaucoup.
Bon, et depuis vous y êtes allé à l'opéra?
Oui, depuis. J'ai tourné 7 jours là-bas. Ouais,
vous avez tourné où exactement? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ouais.
Partout,
c'est même
incroyable.
Dans le lac en dessous.
Ouais, on est allé voir le lac en dessous. Ah. Bah, la planque du fantôme, c'est vers le lac en dessous. Enfin, tout est incroyable, franchement, c'est 7 jours là-bas. On n'aurait jamais pu se le payer dans la vraie vie.
Ah, mais ça, je peux vous le garantir. Ouais. Hein. C'est hors de prix pour aller
tourner
l'opéra.
C'est hors de prix, ouais, c'est ça. Et donc, c'est incroyable que d'où je vienne moi et qu'on puisse réussir à faire ça. Et puis, tout est marquant. Tout, l'ambiance, il y a une âme, c'est très prenant, vraiment.
Vous avez apporté deux sons qui vous caractérisent. On va écouter le premier. J'ai l'impression que c'est un souvenir d'enfance. Moi, j'avais complètement oublié cette musique. Vous la reconnaissez, Lumila Dabo?
Oui, bien sûr.
C'est quoi?
L'émission de Jacques Martin.
L'école des fans.
Oui.
Moi, j'avais complètement oublié le générique. Je me souvenais de
j'étais
tout.
J'étais tout petit et ouais, ça me marque parce que après, bon, je le raconterai à la rentrée dans une bande dessinée chez Michel Lafon. J'ai grandi en foyer. Et du coup, cette émission et ce générique, c'était le signe le dimanche, parce que je rentrais chez moi les week-ends, et le dimanche c'était le signe qu'il fallait que je rentre au foyer. Et il y avait cette musique et plus, bon bah c'était l'heure. Vraiment, quand l'émission commençait, c'était l'heure d'aller prendre le bus pour rentrer au foyer. Et du coup, tout s'est mélangé dans mes souvenirs en mode c'est une émission en mode Madeleine de Proust, mais en même temps c'est un peu touchant parce que je devais rentrer au foyer et c'était chiant quoi.
Donc, une sorte de frustration. Donc, le deuxième, quelque chose qui vous concerne beaucoup plus personnellement aujourd'hui.
Le monde est
à moi et j'ai les bombes cirées. Je m'inquiète pas pour les fans, moi j'ai déjà mon chèque viré. C'est on n'est pas les rêves des cages d'escalier.
Alors c'est du bon ou c'est du mauvais rap que vous nous infligez?
C'est très très bon
rap. Et c'est du bon rap cette fois-ci donc.
C'est déjà mon rappeur préféré, Arsenic.
Ouais.
Arsenic, et là c'est Calbo et Lino. Et là, particulièrement ce texte-là, il raconte tout ce qui m'arrive aujourd'hui. À un moment il dit dans la rue, aujourd'hui c'est plus comme avant, tout le monde est mon copain. Enfin c'est incroyable comment ce texte aujourd'hui me parle et comment j'écoutais ce texte à l'époque. Et j'ai eu la chance qu'il soit présent à l'avant-première du Fantôme. Enfin c'est un peu dingue cette vie, je trouve aujourd'hui avec du recul. Et ce son, moi à chaque fois que je l'écoute, c'est tellement touchant. Et ça c'est du rap, c'est de la poésie, c'est plus que ça, c'est magnifique ce rap-là. Moi. J'adore.
Vous n'êtes pas très rap, Jonathan Vinel. J'ai l'impression. J'ai l'impression que vous étiez très métal aussi, ouais.
Ouais, j'étais très métal, mais j'adore. Ouais, mais moi j'adore Booba, donc c'est pas ça.
Oui, mais
désolé.
Oui, mais il y a plusieurs époques de Booba.
C'est ça.
Il y a plusieurs
mais
époques
moi,
de Booba.
Moi j'adore la dernière.
Moi je suis Booba lunatique.
Mais moi j'ai
aujourd'hui
connu,
un peu moins.
J'ai connu très très tard Booba, en fait, donc j'arrive, je débarque toujours après.
C'est pour vous dire qu'il est beaucoup plus jeune que vous. C'est la seule raison.
Non, je suis pas beaucoup plus jeune en plus. C'est juste que je découvre les choses un peu à rebours parfois.
Non, Booba à l'époque lunatique, j'adore. Et puis il y a certains sons qu'il fait aujourd'hui. J'adore aussi, mais c'est pas. Enfin, c'est surtout ça. Quand des gens se font preuve de paresse dans le texte, ça m'énerve un peu, ça m'agace.
Le Fantôme, c'est visible sur la plateforme 3ème scène de l'Opéra de Paris et sur votre chaîne, j'imagine.
Ouais, bien
vous
sûr.
Vous n'en êtes pas privé.
Non, bien sûr.
On quitte le rap, on va parler Nina Simone tout de suite.
Be my husband, I be your wife. Doggone me, please don't treat me so. Doggone me, please don't treat me so. Doggone me, you're the meanest man I ever seen. Oh, daddy, now, love me good. Oh, daddy, now, love me.
My Husband, Nina Simone, une chanson que vous connaissez bien, Ludmila Dabo, vous pourriez presque faire un karaoké dessus parce que la chanson ouvre la pièce Portrait de Ludmila en Nina Simone, une pièce que vous chantez, que vous jouez et que vous documentez. Qu'est-ce que cette chanson raconte ?
Cette chanson, c'est l'histoire d'une femme qui aime profondément un homme et qui est prête à tout sacrifier pour lui, pour le servir, pour lui donner tout ce qu'elle peut lui donner, qui est en lien avec l'amour qu'elle lui porte. Et puis, cet amour est tellement inconditionnel que finalement, cet homme se révèle un peu violent, se révèle un peu indélicat avec elle et qu'elle lui dit, tu sais, je t'aime tellement fort, tu es l'homme le plus méchant, je ne mérite pas que tu me traites comme tu me traites. Ça termine comme ça.
Vous ouvrez sur les hommes de la vie de Nina Simone, sur son amour d'enfance qui va la trahir, sur le flic qu'elle épouse qui va la tabasser. Ça vous permet de dire quoi? De commencer comme ça, une pièce sur Nina Simone et sur vous, de commencer par sa vie sentimentale? Parce que vous auriez pu commencer par d'autres choses. Le piano,
oui.
Les cours, la frustration.
Absolument, mais l'idée d'abord, c'est dans cette première partie, c'était de traverser un moment léger, un moment beau. Et donc, son premier rapport à l'amour qui est très tôt en réalité dans sa vie. Donc c'est d'abord ça qu'on essayait de mettre en lumière. Et puis finalement, même cette première idylle qui est une histoire d'amour qui pourrait être belle, finit par se tordre parce que son cœur est brisé, parce que l'homme qu'elle aime part avec une autre jeune fille.
Sa meilleure amie.
Et absolument. Et qu'elle en est pour la première fois blessée et qu'en réalité, la blessure amoureuse dans sa vie est là en permanence.
La pièce revient sur plusieurs aspects. Les hommes de sa vie, ça c'est le tout premier acte, on va dire. Le piano, les cours, le deuxième acte. Les récitals à l'église à l'âge de 6 ans. Le récital aussi, à partir de 7 ans, répertoire classique.
Absolument.
Parce que quand même, virtuose dès le départ.
Bien sûr, pianiste concertiste.
Ouais, pianiste concertiste. Les concours pour devenir pianiste classique. Mais là, tout bascule et on est exactement au milieu de la pièce. Extrait.
New York, 1960. 50, excusez-moi, 50, important. Études à la Columbia School pour préparer le concours du Curtis Institute of Music de Philadelphie. Devenir la première pianiste classique noire de l'histoire de la musique. La vie à Harlem, les cours de l'éminent docteur Friedberg. La famille qui quitte Tryon pour s'installer à Philadelphie en prévision de ma future carrière. Le concours qui se déroule comme il faut. Pas de panique, pas de tremblement, pas d'accident. L'attente des résultats du concours du Curtis Institute of Music de Philadelphie. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Know that means and I'm feeling good.
Ça aura-t-elle le drame de sa vie puisqu'elle ne deviendra jamais la pianiste classique qu'elle aurait voulu être? Est-ce que ça fait écho à votre propre parcours d'actrice? Je vous pose cette question parce que la pièce est aussi un portrait de vous. Quelques minutes plus tard, la pièce bascule à nouveau. David Lescaut, qui est l'auteur de la pièce, est avec vous sur scène et il va vous poser des questions sur votre vie puisqu'on est aussi dans un théâtre documentaire. Est-ce que cette frustration qu'a vécue Nina Simone, c'est quelque chose que vous avez vécu aussi dans votre parcours de comédienne? Avec un parcours beaucoup plus classique, parce que contrairement à John Rachid, vous avez fait le conservatoire de Paris.
Absolument, et du coup, c'est pour ça que je vais d'abord vous dire que cette frustration-là n'existe pas, puisque j'ai eu l'opportunité, la chance, après avoir passé parmi d'autres camarades comédiens, le concours du conservatoire et de l'avoir obtenu. Alors, le théâtre, dans ma vie, est là depuis que je suis très petite, puisque j'ai commencé quand j'étais en dernière section de maternelle. À chaque fois, ça me fait un peu rire de formuler comme ça, mais c'est vrai que...
Vous jouiez quoi? Des fleurs? Des légumes? Parce que généralement, en maternelle, on joue ça. Hein, moi, je l'ai fait.
Ah, écoutez, alors moi, j'en étais pas du tout là. J'en étais déjà à
une pomme de terre, hein, je peux vous le dire.
Magnifique.
Je m'en souviens encore.
Mon côté
Agnès Varda, peut-être.
Moi, je me souviens de mon premier rôle où je jouais un vieux sage asiatique.
Bah, c'était
et
pas
où
mal.
J'avais fait... Ma
c'est beaucoup plus intéressant que
avec
moi.
Du coton pour vraiment être dans l'idée dans quelque chose de très pittoresque, mais avec un costume d'indien, c'est-à-dire que ma mère m'avait acheté une tenue indienne et c'est ça que je portais pour jouer un vieux sage asiatique, mais que j'avais décidé de
très Peter Brook
donner...
déjà comme dimension.
Absolument, mais qui était proposé pour le coup par la personne qui donnait l'atelier.
Ah, donc c'est pas mal.
Mais voilà, premier souvenir. Toujours est-il que j'ai continué le théâtre à l'école, notamment en atelier, mais aussi en passant un bac théâtre par la suite à Paris, dont je suis allée chercher les résultats d'ailleurs à côté, au lycée Molière, la 16e. Donc du coup, le théâtre a toujours été là, j'avais pas décidé d'en faire un métier au départ. Vraiment pas. Et puis il se trouve que j'avais quand même envie de continuer à prendre des cours. Donc je suis allée en conservatoire d'arrondissement pour passer des auditions. Je suis rentrée au conservatoire du 10e. C'est la première fois que j'entends parler du conservatoire national et qu'on me dit ce serait bien que tu tentes l'aventure. Puis je la tente un peu par-dessus le bras en me disant oh, oui, il faut bien faire cette expérience. Donc j'y vais un peu en guignol.
Et vous êtes reçue.
Non, pas la première fois, parce que je l'ai passé deux fois, le concours du conservatoire. Et la première fois, c'est quand je me suis retrouvée devant le jury que je me suis rendu compte que c'était bien plus important que ça pour moi d'être venue passer ce concours et que j'en avais pas pris conscience jusqu'à ce que je me retrouve devant des professionnels et des gens avec une histoire de théâtre importante. Et là, je me suis dit, j'ai fait une erreur. Et je savais que je n'aurais pas le concours. Donc j'ai passé un an à préparer le concours pour la deuxième fois l'année d'après. Et c'est là que je l'ai eu. Et pour moi, c'était très important de faire aussi des choix de scène qui avaient un sens très intime et très personnel. Et j'ai été accompagnée par quelqu'un qui m'a aussi dit, Catherine Hirsch, Ludmilla, tu ne peux pas passer ce concours sans faire comme si ton identité n'était pas, ne s'inscrivait pas à l'intérieur de ce choix-là.
Ça veut dire quoi ?
Et que j'ai donc fait le choix de passer une scène de Marivaux, l'île des esclaves, où les maîtres et les esclaves arrivent sur une île où la vie est inversée, ouais, et les esclaves deviennent
le pouvoir,
les maîtres,
bien sûr, prennent le pouvoir.
Et effectivement, je crois quand même que la question de ce qui peut ressembler à de l'audace quand on est très jeune et qu'on fait ce type de choix avec son identité a peut-être un peu marqué.
Ah ben ça, j'imagine. Et ça vous a poursuivi parce que vous faites un lien très intéressant entre vous et Nina Simone à propos d'un discours qu'elle a tenu dans une université et que vous avez rejoué dans le cadre de vos études au conservatoire, quelque chose qui a marqué même l'histoire du conservatoire de Paris. Vous resituez cette expérience ?
Oui. En deuxième année au conservatoire, on a l'opportunité de faire une création. Une petite création qui ne va être présentée que dans le cadre du conservatoire. On a la possibilité d'inviter un peu famille, copains très intimes, éventuellement assister à cette représentation. Mais elle est faite exclusivement pour les membres du conservatoire, le corps professoral et les camarades. Et donc, avec des copains comédiens et aussi danseurs de l'extérieur auxquels on avait fait appel avec mes copains, on a décidé, sous ma direction, de mettre en scène une création autour de la vie de Nina Simone, qui s'appelait Eunice Kathleen Women.
Déjà à l'époque.
Voilà, qui est son nom original. Et au cours de ce spectacle, on s'est dit que ce serait important de questionner quand même le fait que les identités multiples dans cette école ne sont pas régulières et ne sont pas une évidence. Et que ce serait quand même bien de transposer un événement comme celui qu'elle a fait dans ce concert à l'université où elle note qu'il y a très peu de Noirs. Nous, on était trois au conservatoire à cette époque-là. Et donc, on s'est dit, 90 élèves, trois étudiants noirs. C'est intéressant quand même de faire un parallèle qui va sans doute être très maladroit, mais qui donne l'opportunité d'interroger de très loin et de manière très succincte une absence de représentation régulière, évidente peut-être, à laquelle on est confronté.
Qu'est-ce qu'elle avait fait, elle, donc, pendant ce concert à l'université ?
Elle a demandé à des étudiants noirs de se lever et elle leur a chanté la chanson Young, Gifted and Black en précisant aux autres étudiants blancs que cette chanson n'était pas pour eux, mais qu'elle était dans ce cadre-là pour rendre hommage à ces étudiants qui ont le courage de se lever tous les jours dans une époque qui est très particulière, ségrégationniste, et d'affirmer qu'ils ont le droit d'étudier comme tout le monde, qu'ils ont le droit de rêver un avenir qui n'est pas celui dans lequel on les attend. Et donc, en plus de ça, ils sont intelligents, cultivés, et qu'ils doivent être fiers d'être noirs.
Et elle fait lever ses élèves.
Absolument.
Et vous, quelques années plus tard, donc, au Conservatoire de Paris, pendant cette représentation, vous demandez la même chose, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe ?
Rien.
Les élèves ne se lèvent pas.
Non, les élèves ne se lèvent pas. Mais donc, moi, ce qu'on dit dans le spectacle, très précisément, ce que je raconte, c'est que on travaille comme une sorte de happening, mais en même temps, est-ce que je maîtrise les codes de cette chose-là ? Je ne sais pas, à ce moment-là, précis. Je sais qu'on reprend, qu'on décide de rentrer vraiment dans la reprise de cet acte-là, et qu'en réalité, on se pose pas la question de savoir s'ils vont se lever ou pas. Il se trouve que ça n'est pas le cas et qu'après, on va avoir des bruits de couloir qui vont nous demander les raisons pour lesquelles ce moment existe. En tout cas, la gêne pour et les élèves et le corps professoral d'être confrontés à une telle problématique ou interrogation.
Et ça prend beaucoup de résonance aujourd'hui avec ce qui se passe, on va peut-être en parler. Juste une question, cette pièce, vous l'avez menée dans des théâtres, vous continuez à l'amener dans des théâtres, mais j'ai vu aussi dans des écoles et aussi en prison. Est-ce que lors de cette scène que vous rejouez, il y a des personnes qui se lèvent ?
Non, 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 non. Mais il y a une scène un tout petit peu analogue qui se passe vers la fin du spectacle, où Nina Simone fait un concert pour les droits civiques. Et à ce moment-là, elle dit aux Noirs, elle leur demande s'ils sont prêts à faire la guerre, à rentrer et à affirmer leur fierté d'être Noirs.
Et de faire la guerre aux Blancs.
Et donc, elle le fait de manière très musicale. Hein. C'est vraiment une introduction musicale. Et avec David, surtout moi, David Lescaut, j'ai fait le choix de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus agressif, de beaucoup plus engagé. Et c'est à ce moment-là que souvent, chez les jeunes et chez les moins jeunes, quand on dit « vous êtes prêts les Noirs, vous êtes prêts à faire ce qu'il faut, vous êtes prêts à lutter s'il le faut », c'est là qu'on entend de timides « oui ».
C'est pas mal. La pièce est politique, même si vous ne le voulez pas, mais elle l'est quand même quand on la regarde. Elle interroge donc la place des Noirs dans la société et dans le monde de la culture. C'est un sujet qui déclenche actuellement pas mal de débats. Je pense à la polémique autour de la pièce Les Suppliantes, bloquée par des militants des coloniaux, la Ligue de défense noire africaine, où j'aimerais connaître votre position sur ce sujet, sachant que Les Suppliantes, vous l'avez joué dans une autre version qui s'appelait Retour à Argos il y a quelques années. C'était une version d'après Échille des Suppliantes. Quel est votre rapport à ce sujet, vous, Nila Dabo?
Alors moi, je suis dans un paradoxe par rapport à ça. Je suis très gênée. Parce que déjà, cette polémique, moi, je n'en ai pas entendu parler très rapidement, en fait. Elle est montée parce que...
Il y a eu une pétition ensuite, notamment, signée par des centaines de gens du milieu de la culture.
Bien sûr, et écrite
d'Ariane
par
Mouchkine
Ariane
jusqu'à
Mouchkine.
Christine Angot.
Je pense même que c'est Fabula, c'est la compagnie d'Ariane Mouchkine
qui est à l'origine de la pétition. Ouais.
Absolument. Moi, j'ai été, très gênée parce que et double dans ma manière de regarder les choses parce qu'en fait, je préférerais mettre mon veto et qu'on n'ait pas à me poser la question, qu'on me demande pas mon point de vue par rapport à ça parce que je suis noire et que j'aurais forcément quelque chose à en dire. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est toujours très gênant d'être confrontée à ça. Je savais alors même que votre invitation avait été faite avant que ce serait
le cas.
Oui,
bien sûr. Ouais.
Mais voilà, c'est quand même toujours délicat d'être invitée à devoir forcément s'exprimer par rapport à ça.
Vous n'êtes pas la première à laquelle je l'ai posé.
J'en suis certaine.
Ouais.
Mais ça reste toujours la question de se dire...
J'ai posé à toute personne qui est comédien, en fait. Parce que ça veut dire, est-ce qu'il est possible de jouer quelqu'un qui n'est pas de sa race, qui n'est pas de sa confession,
qui n'a pas
la même sexualité?
C'est une autre question, mais c'est pas par celle-ci que vous m'interrogez. Donc du coup, c'est pour ça que je le note. Et parce que du coup, c'est là d'abord la question de mon identité. Donc est-ce
Bien
que
sûr.
Je suis une comédienne noire ou pas, ou juste une comédienne? Comment je regarde tout ça de l'extérieur? C'est ça qui est pour moi gênant et qui m'interpelle, parce que du coup, ça va aller avec la réponse que je vais avoir, qui est que être un activiste engagé sur les questions raciales qui concernent notre société, je trouve que c'est bien qu'il y ait des personnes qui le fassent. Et pour moi, c'est fondamental que des gens continuent à lutter à cet endroit-là, parce que si moi, je suis pas forcément une activiste, je comprends d'où ça part et je sais pourquoi. J'ai regardé les photos, j'ai évidemment vu quelques articles passer sur l'indignation qu'il y avait par rapport à ça. Je n'ai pas vu l'indignation par rapport à la peinture marron qu'il y a sur les corps, et moi, de l'extérieur, rien qu'en regardant, c'est ça qui d'abord je me sens touchée et blessée et concernée par cette image, sans savoir de quoi parle le spectacle, sans savoir que c'est une reprise d'Échille, sans l'illustration, c'est déjà violent. Aussi pour ce dont on a parlé, qui était surtout la question de blackface, qui a été nommée. Je pense que tout le monde n'est pas forcément connaisseur sur l'histoire du blackface.
On commence quand même à connaître un petit peu maintenant, hein, j'imagine.
Oui, mais c'est une histoire d'abord américaine, et qui ensuite a une autre forme de développement en France. Et moi, je me souviens par exemple quand j'étais plus jeune, et sans savoir que c'était raciste ou que c'était violent, mais que ça m'avait interpellée. Quand j'étais plus jeune, je me souviens d'une caricature dans un cabaret télévisé d'une chanson d'Edith Piaf, Les clubs
cloche sonne, qui avait été transposée avec des corps qui avaient été grimés en noir et blanc, et où on entend Hunga Waga, Hunga Waga à l'intérieur de cette reprise musicale, et où qui est vraiment une caricature qui est de cet ordre-là. Et c'est quand même des choses, voilà, qui sont comme des blessures qu'on ne peut pas éteindre et qui forcément s'inscrivent. Alors, est-ce que ça veut dire, juste pour terminer, qu'il faut interdire et qu'il faut empêcher les gens d'entrer ? Je ne pense pas. Je pense qu'en revanche, le fait qu'il y ait un mouvement, une manifestation, qu'on soit contre et que ça fasse du bruit, c'est très important. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'à côté, il y ait une éducation qui puisse accompagner une démarche comme celle-ci. Parce que l'ignorance de travailler sur une démarche comme celle-ci et de ne pas aller au bout de ce que ça raconte, c'est très grave.
Caroline Poggi, Jonathan Vinel, sur ce sujet, vous connaissez, j'imagine, la polémique.
Non, pas celle des suppliantes, mais le blackfacing en général, non. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me choque en 2019. J'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut avoir l'idée de faire ça. En fait, je suis dans l'incompréhension du geste même, en fait. J'imagine quelqu'un en train de faire le geste et je me dis, mais où est-ce que ça bloque, en fait? Où est-ce que ça bloque pas,
peut-être? Moi, si je puis me permettre, John Rachid. Aujourd'hui, on n'a plus aucune excuse. On sait.
On connaît l'histoire.
On connaît l'histoire. On peut plus le faire. On le fait pas. Ça se fait pas. À l'époque, c'était, il y avait un truc comme ça de, un passé colonialiste chelou qui reste un petit peu et on le faisait et c'était pas forcément méchant. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont pas fait.
Non, parce qu'il y a tout un humour qui s'est développé avec ça. Il y a un humour très important, mais cet humour, les tenants et les aboutissants de cet humour-là ne sont pas connus non plus. Nous, on se souvient juste de la banane de Michel Leeb.
Ouais,
on en est encore qu'à ça.
Même au Club Dorothée, il y avait des gens grimés en noir derrière et tout. À l'époque, ça ne nous choquait pas parce qu'on savait pas. Maintenant, on sait, on le fait plus, c'est tout. En fait, c'est comme ça, la société évolue, évoluons avec, en fait.
Jonathan Vinel.
Moi, le premier blackface que j'ai vu, c'était dans Naissance d'une Nation. Ça m'avait vraiment surpris. C'est un film de 1914.
Oui, tout à fait.
Et j'avais absolument pas compris pourquoi ils avaient fait ça, en fait. Pourquoi ils avaient juste pas pris des acteurs noirs et pourquoi ils avaient pris des blancs pour les peindre en noir pour, je comprenais absolument pas pourquoi ils avaient fait ça et ça m'avait choqué. C'était pas un truc qui était tellement expliqué dans les cours de la fac que je voyais et du coup, c'était une grande question. Et...
En tout cas, la réponse qui en a été donnée, excuse-moi juste pour Jumia dire, par les professionnels, m'a profondément choquée parce que je la trouve beaucoup plus agressive. Les activistes qui sont allés manifester et qui ont refusé de laisser entrer des gens qui...
Et qui ont signé une contre-pétition par la suite, hein. Très importante.
Oui, mais
avec Mélissa Lavo d'ailleurs qui a signé.
Ce que je trouve très difficile, moi, c'est que ces gens-là ont été accusés d'être des kamikazes. Et je trouve que utiliser de tels termes, être dans une agressivité d'écriture comme celle-ci pour parler de gens dont... parce que c'est ce groupe de personnes qui est ciblé, mais c'est aussi toute une histoire de racisés dans ce pays qui est encore très peu formulé, très peu accepté. Je me souviens du travail qui a été fait par Pascal Blanchard et Sylvie Chalaille sur sexe, race et colonie il n'y a pas si longtemps, où il était question de répertorier des images qui montrent que les violences sexuelles étaient liées à la colonisation et ont été démenties par beaucoup d'historiens qui ont refusé d'accepter ça, ou d'anthropologues qui refusent d'accepter que cette histoire-là existe aussi et être encore dans la négation d'une action pour lutter contre des démarches qui sont fragiles parce que ignorant ce que c'est que le blackface et en usant sans difficulté au nom du théâtre, je trouve ça grave.
Eh bien voilà, vous voyez que j'ai bien fait vous poser la question. Portrait de Ludmilla en Nina Simone, c'est le 11 mai au Théâtre Louis Aragon à Tremblay en France, du 22 au 24 à la Filature de Mulhouse. Et puis vous êtes aussi dans Harlem Quartet, 28, 29, 30 mai au Festival de Théâtre de Dijon. Rendez-vous à Montpellier encore avec David Lescaut qui manifestement vous suit à partir du 14 juin. Une femme se déplace, c'est presque le titre de votre parcours, Ludmilla Dabo. C'est dans le cadre du Printemps des Comédiens. Tout de suite, cinéma, on quitte le théâtre.
Rendez-vous.
Respire. Ça va aller.
Tout cet amour, ça a servi à quoi?
C'était ce qu'on avait de plus beau, c'était pour Jessica.
nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Ça donne un peu l'ambiance de ce premier long métrage, Jessica Forever, j'adore déjà le titre, votre premier long métrage, donc Caroline Poggi et Jonathan Vinel, donc un film signé à quatre mains et quatre yeux. Premier long métrage stylisé, stylé, ambiance froide, violence au programme. Pour situer d'abord, qui est Jessica ?
Jessica, c'est une femme dont le passé est assez mystérieux et qui a un pouvoir magique qui est celui de guérir de la violence, en tout cas de calmer la violence de garçons qui ont été par le passé ultra violents. Et moi je dis souvent que c'est leur soleil, c'est leur guide.
À ses côtés, donc, une meute de jeunes gens. Qui sont-ils, Jonathan Vinel?
Nous, on les voit comme des orphelins ou des monstres, mais l'image de l'orphelin, c'est plus une métaphore, c'est l'idée de parler des gens qui ont jamais trouvé de place dans la société, qui n'ont pas eu d'amour, et du coup, qui sont devenus violents parce qu'ils ont toujours été rejetés. Et du coup, c'est ces garçons, voilà, là, qui composent la meute.
Qui sont livrés à eux-mêmes, pourchassés par une armée de drones.
Ouais, des drones. Bah, les drones, c'est... Pour nous, c'était une façon de donner une forme de répression universelle, en fait, quelque part. Universelle, et en même temps, d'utiliser un objet hyper contemporain, qui est l'objet du loisir, avec lequel tu peux faire des images magnifiques. En même temps, tu peux lâcher des bombes et ou tuer des gens, peut-être, bientôt, je sais pas encore. Mais du coup, c'était vraiment de donner cette forme à une répression déshumanisée, automatique, et quelque chose qui réfléchit plus de façon humaine, en fait.
Vous filmez avec quoi? Vous filmez avec des drones aussi, ou pas? Je me suis demandé.
Non.
Vous voulez être interdit?
Non, parce qu'on n'avait pas besoin. Non, on n'avait pas besoin pour les plans qu'on faisait. On avait une caméra et on n'a pas filmé avec des drones. Non.
La mise en scène est assez simple. Il n'y a pas de plan.
Non, il n'y a pas de plan comme
ça.
Non,
donc
non.
Ça aurait été trop accessoire et trop cher.
Ils évoluent dans un environnement hostile, donc pourchassés par des drones, ce qui donne une dimension jeu vidéo. Il y a une esthétique presque 80s, j'allais dire. Bon, ça me rappelle quand même des images que j'ai pu voir à l'époque. Une dimension de jeu vidéo, une esthétique véritablement revendiqué, mais quel type de jeu vidéo, quelle est l'image que vous associez à votre film, Jonathan Vinel?
Je pense que quand on parle de l'esthétique de jeu vidéo, c'est plus en rapport au monde, dans le sens où ce film peut être vu comme un conte parce qu'il n'est pas...
Une fable contemporaine,
ouais,
avec des acteurs qui ne surjouent pas le naturalisme, qui sont même dans une distance presque à la Bresson, de temps en temps. Ouais.
Oui, mais du coup, vu qu'il n'est pas ancré dans un territoire précis, parce qu'on l'a tourné à Toulouse et en Corse, mais en même temps, dans le film, c'est vraiment quelque chose d'universel, qu'on cherchait des territoires qui ressemblent à tous les territoires qu'on peut voir partout en France ou
pavillonnaire.
Voilà, des territoires pavillonnaires assez froids au final. Donc je pense que le côté jeu vidéo vient plus de là, d'une ressemblance avec le monde, mais en même temps pas une définition très claire. Et après, on a aussi travaillé ce qu'on peut appeler le côté jeu vidéo dans l'image, où on a cherché vraiment à pousser au maximum le côté, l'aspect numérique de l'image en mettant vachement de netteté. Et je pense que ça a aussi créé une sorte de distance avec les images qu'on filme et du coup les déplace en y mettant un peu de magie. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le film, je pense, c'est de déplacer les choses, parce que c'est un film qui travaille sur des codes avec lesquels on a grandi. On essaye toujours,
c'est-à-dire le film de guerre, le film de genre,
les films d'action, les jeux vidéo,
les jeux vidéo,
de rap, ouais. Enfin, tout un univers un peu capitaliste au final, du coup, avec lequel on était bercé quand on a été enfant, et que les adultes aussi nous ont appris à dire, voilà, les jeux vidéo, faut faire attention parce que c'est très violent, c'est quelque chose qui va peut-être vous rendre fou et tout. Et nous, je pense qu'on a essayé d'injecter dans tous ces codes quelque part de l'amour, pour essayer aussi de trouver une place à l'intérieur de ces codes que les adultes nous ont donné, parce que c'est, en fait, on vit dans un monde qui a été créé
par
les
adultes,
et nous, on est les héritiers de ça. Et du coup, c'est toute l'idée, c'est d'essayer de les reconquérir par le romantisme, pour en fait trouver sa place à l'intérieur de tout ce désordre.
Qui est-ce qui joue aux jeux vidéo autour de la table? Julien Dabo?
Non. Je n'y ai jamais joué.
Point commun. John Rashid.
Ouais, j'ai joué
quand même.
Tout petit et encore aujourd'hui.
Quel type de jeu, les jeux de guerre?
Peu importe ce qui sort, qui est bien, en fait. Tout. Du foot, des jeux de guerre, tout.
Mais après, Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Caroline Poggi, vous?
Oui, après, moi, je regarde plus Jonathan, mais moi, j'étais plus jeu de stratégie où il fallait construire des villes, SimCity, les trucs d'Empire, etc.
Mais après, ce que je veux préciser, c'est que c'est pas un film pour apprécier Jessica Forever. Il y a pas du tout besoin d'avoir joué au jeu vidéo.
Non, je l'ai vu.
Non, mais je préfère le dire.
Je pense que je mens un tout petit peu parce que moi j'ai joué à Tetris. Donc jeu vidéo.
C'est vrai.
Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a été très surpris quand on a commencé à montrer le film au public avec des gens qui n'étaient pas du tout de notre génération, qui avaient 70 ans et plus, qui venaient nous voir et qui nous disaient, ce qui est hyper bien avec ce film, c'est qu'en fait, ce dont vous nous parlez, c'est le sentiment de perte et de comment on fait pour grandir ensemble, ça traite du collectif et de se créer une famille. Et je pense que c'est des sentiments qui nous traversent tous et qui quelque part sont universels. Et du coup, il n'y a absolument pas besoin de, même si on reprend l'esthétique du jeu vidéo, c'est pas quelque chose qui fonde le film.
Non, mais c'est quelque chose qui le met un petit peu à part dans la production contemporaine, en tout cas de ce que l'on peut voir voir au cinéma. C'est-à-dire que même si c'est une esthétique de jeu vidéo, je me suis dit en regardant le film, c'est la première fois depuis longtemps quand même que je ne vois pas des téléfilms sur un écran, mais du véritable le cinéma. Justement, je me suis demandé sur quel type de cinéma vous vous êtes rencontrés tous les deux, Jonathan et Caroline.
Dans les films, dans ce qu'on aimait.
Ouais,
dans ce qu'on aimait. Je pense que c'était le film Harmonie Corinne, peut-être Gus Van Sant, Bresson aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dumont, je me souviens à l'époque, les premiers films qu'on se passait.
Ouais, c'était des formes assez radicales en fait, parce que je pense que c'était ça qui nous plaisait au début dans le cinéma. C'était vraiment des cinéastes qui avaient un vrai aspect formel, et c'est ça qui nous a attirés. Et je pense qu'on a fait le chemin inverse en découvrant des films un peu plus populaires très tard.
Blockbuster, style avec des super Avengers ou des trucs comme ça.
Je sais qu'on a recommencé à les voir ensemble alors qu'on est rentré dans le cinéma avec des formes assez arides, et qu'au final maintenant on peut regarder E.T. et qu'on adore. Et c'est un truc que moi, quand je suis rentré dans le cinéma, je trouvais que c'était un peu pour les beaux affitifs, je me disais ouais, c'est pas bien, et j'ai fait tout le chemin inverse où maintenant je regarde plus de formes entre guillemets qu'on pourrait dire des cinémas mainstream que j'adore en fait maintenant, mais j'ai fait le
Mais c'est très intéressant d'avoir ce parcours. Moi, je me souviens, ça fait ma formation est de ce type-là. Moi, je me souviens avoir lu Marguerite Duras avant d'avoir lu, par exemple, Le Père Goriot. Et c'était en lisant Marguerite Duras que plus tard, j'ai découvert une dimension conceptuelle dans Le Père Goriot que je n'aurais pas soupçonné si j'avais commencé par cela.
Ouais, mais parce que je pense que si on se met un peu des barrières aussi, peut-être que nous met les cours. En fait, on élimine directement des formes qu'on juge peut-être un peu trop grosses. C'est un peu tôt pour tout le monde aussi. Je pense qu'on a envie de se sentir peut-être particulier au début et de pointer directement vers des choses précises, et qu'en fait dans ces œuvres universelles, que ce soit même Peter Pan, le Père Goriot, enfin il y a des formes et des archétypes que tu vas retrouver partout quelque part, ça pose des bases en fait.
Alors moi je me suis demandé au niveau des jeux, du jeu des comédiens, un jeu que vous avez stylisé j'allais dire jusqu'au boutiste, hein, c'est-à-dire il y a cette dimension bressonienne dont je parlais au départ, quand vous avez fait passer les auditions, peut-être qu'il y en a pas eu, mais quel type d'exercice leur avez-vous demandé?
Alors,
Caroline
Poggi. La première chose qu'on a demandé aux gens, en fait, c'est juste de discuter avec nous pendant une heure de leur vie. En fait, on leur demandait pas de jouer. Et en fait, on avait besoin de les sentir en tant qu'être humain, de voir comment ils bougeaient, comment ils parlaient, qu'est-ce qu'ils donnaient d'eux. Parce que je crois que dans tout notre travail avec Jonathan, on n'a pas envie de transformer les gens. Et il y a des acteurs, il y a des non-acteurs, il y a des vraiment, ils font des métiers hyper différents. Et en fait, ce qu'on cherche à la base, c'est une énergie qui leur est propre. Voilà. Et du coup, on discutait pendant une heure de leur vie.
Et après le travail sur le ouais, ce qui donne cette diction assez étrange, c'est que je pense on est très attaché au texte qu'on écrit, et je pense que ce qu'on demande aux acteurs quand on les fait répéter, c'est vraiment d'être au service du texte, et du coup de quelque part s'effacer un peu dans la diction au profit du texte qui doit être lu et entendu et écouté d'une manière hyper étrange, comme un cadeau qu'on donne. Et je pense que c'est pour ça que aussi le texte a une place particulière dans le film, c'est parce qu'il est ressuscité d'une telle manière et mis un peu sur un piédestal.
Donc pas de peine d'improvisation chez Poggi et Vinel.
En fait ça correspondait aussi au type de personnage qu'on voulait dessiner. C'est vrai qu'on dit toujours que les orphelins dans le film, c'est un peu des funambules. C'est des jeunes garçons qui sont pas guéris, qui vont mieux, mais qui sont sur une espèce de corde raide. Et la moindre émotion peut les faire passer d'un côté ou de l'autre de cette corde. Donc du coup, forcément, ils peuvent pas donner leur émotion comme tout le monde. En fait, tout est mesuré, tout est contrôlé. Et quand ils hurlent. Quand ils parlent bas, ils parlent bas. Et c'est aussi des garçons qui n'ont pas grandi dans le monde. C'est des orphelins. Donc ils n'ont pas les codes du monde. Et pour ça, ils peuvent pas parler comme tout le monde.
Vous-même, vos familles vous ont soutenu pour votre métier?
Ah ouais, complètement. Ben moi, je serais pas là si mes parents m'avaient pas aidé. Je sais que au début, je savais pas.
Vous venez
de
Toulouse?
Ouais, moi, je viens de Toulouse, dans un petit village qui s'appelle Boulogne, et on a d'ailleurs tourné le premier plan de Jessica quand elle est sur le toit, c'est ma maison. Et
donc c'est presque un film familial d'une certaine façon, parce qu'il y a aussi du côté de la Corse, de votre côté Caroline.
Ouais, ben on a tourné chez nous, et je sais que mes parents, mais voilà, ils m'ont vraiment poussé à toujours me dire voilà. Prends le temps aussi de faire ce que tu veux, alors que je viens d'un milieu où mes parents n'étaient pas des familles très très riches. Enfin, ma mère est infirmière, mon père est maçon, et pour autant ils m'ont toujours soutenu, et c'était hyper beau, et je sais que c'est grâce à eux que je suis là, quoi.
Caroline, de votre côté?
Moi c'est exactement pareil, j'ai pas du tout mes parents qui baignent là-dedans, mais ils m'ont encouragée. Après je sais très bien que pour eux c'était, alors moi je suis l'aînée d'une fratrie, et en fait c'est toujours...
Vous êtes la Jessica de cette fratrie.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le premier tu vas forcément plus laisser la chance, tu vas avoir un peu moins peur, il aura peut-être plus le droit de tester des choses. Et quelque part, je vois ma petite sœur maintenant qui allait dans une école d'art. Je me dis, peut-être que j'ai un peu rassuré le truc aussi. Parce que c'est vrai que ça fait flipper. Tu dis, tes gamins qui arrivent et qui disent, je vais faire du cinéma. Tes parents, ils sont pas là-dedans du tout. Tu dis, oulala, mais ouais, s'embarque. Enfin, et finalement, ils nous ont fait confiance. Et quand ils ont vu que ça nous plaisait, que ça marchait, ils sont là pour nous. Ils nous demandent tout le temps. Voilà.
C'est pareil pour vous, John Rachid?
Ah oui, moi, c'est encore pire parce que mes parents, ils savent pas du tout ce que je fais. Moi, ma grand-mère, elle dit, il fait des films. C'est tout.
Mais c'est vrai.
Mais il y a un truc à Toulouse qui se passe, parce que mon réalisateur Antoine Barriot est de Toulouse, et il y a plein de personnes de mon équipe, la script aussi était de Toulouse.
Il y a une mafia toulousaine
du cinéma qui est en train d'arriver.
Il faut quand même le dire.
C'est en train d'arriver très très fort là.
Et vous, Ludmilla Dabo?
Oui, mais je me disais aussi
vous
que...
Vous avez eu de la chance, tous, hein?
D'avoir des parents qui... Ouais. Beaucoup, de parents qui nous accompagnent. Mais je crois que l'inverse est vrai aussi, et que parfois les parents, avec le premier, ont très peur, et donc sont très craintifs. Et du coup, ceux qui arrivent après, c'est... Ouf, peut-être que lui, on peut le laisser voler de ses propres ailes. Et...
Jessica Forever est sortie en salle aujourd'hui. Vous êtes allé voir dans les salles? Vous avez fait le parcours de certains réalisateurs, du style aller dans un cinéma, au fond, pour savoir comment ça se passe?
Non, on l'a déjà fait pas mal de... On a accompagné le film à Toronto, à Berlin, donc on a déjà un peu vu. Vrai, après, on a quand même été, si, on a quand même été à la première séance du Quai de Seine, juste prendre un ticket pour le geste.
C'est la tradition. Voilà. Vous restez avec nous, c'est la dernière partie de la première partie du NRV, avec Soro Solo, la chronique.
Vous pourriez mettre un disque?
Oui.
Rendez-vous?
Qu'est-ce que vous voulez?
Je vais m'en dire des nouvelles de celui-là.
Alors chaque semaine, chaque mercredi, Soro Solo nous entraîne ailleurs, alors que moi-même je suis enfermé dans ce studio, cette fois-ci du Mali à Cuba, avec qui?
Avec Maravillas de Mali, parce que c'est un groupe qui a une histoire assez particulière. Il se trouve qu'au lendemain des indépendances, le premier président du Mali, Modibo Keïta, décide d'envoyer, dans le cadre de la coopération culturelle avec Cuba, d'envoyer donc des jeunes Maliens, donc 10, pour étudier la musique. Et ils y vont en 1963. 3 ans après leur séjour à Cuba, ils enregistrent un album qu'ils appellent Maravillas de Mali. Et cet album, ils l'ont enregistré en 1966. Et le tube qui sort, Rendez-vous chez Fatoumata, il fait danser toute l'Afrique.
Ha! Chez Fatoumata.
Rendez-vous ce soir chez Fatoumata. Rendez-vous ce soir chez Fatoumata.
Rendez-vous ce soir chez Fatoumata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami.
Donc l'album date de 1966, ça a fait un carton, premier album, premier gros succès. Pourquoi ça n'a pas continué? Parce que le groupe s'est arrêté en fait.
Oui, parce que quand les 16 étudiants sont arrivés en 1973, sont revenus au Mali, entre-temps il y a eu un coup d'état en 1968. Modibo Keïta est tombé et le nouveau régime de Moussa Traoré, il ne veut même pas entendre parler de tout ce que Modibo Keïta a semé. Donc il ne veut plus entendre parler de ses musiciens et le groupe s'éclate. Et en 1999... comme on appelle un documentariste et musicien, Richard Minier, découvre l'histoire de Maravillas de Mali en se rendant pour la première fois en Afrique et à Bamako. Il rentre donc en contact avec eux et décide de monter un documentaire pour raconter leur histoire. Et ce documentaire va enregistrer un nouveau disque, une réédition de Maravillas de Mali qui s'appelle Mia Africa ou Africa Mia.
Africa Mia, que bello te sueño. Tierra de ensueño y melancolía, África mía, África, África mía, qué bella te sueño.
Ouais, Africa Mia de Bankara Maïga, et cette histoire et ce documentaire, c'est un peu comme celle de la Buena Vista Social Club. Bankara Maïga, le flûtiste et leader du groupe, est le seul survivant, les 9 autres sont décédés, et il revient maintenant sur la scène et reconstitue le Maravillas de Mali avec des Cubains qui ont été dans le même conservatoire où lui il a étudié la musique et font le tour du monde. Et ils seront donc à Paris le 9 mai, ils seront à la Coursive de La Rochelle et le 4 mai à la Philharmonie de Paris.
Quelle belle histoire! Merci au compteur Soro Solo. Pour cette... Soro Solo, on se retrouve mercredi prochain. Vous avez déjà une idée du pays dans lequel vous nous avez...
Oui, on va être dans la Caraïbe parce qu'il y a un autre gros groupe qui arrive avec une grosse histoire. Il s'agit de Kassav.
Très bien. Ah, Kassav, bien entendu. On quitte justement le Mali et Cuba. On part du côté de Little GB à cause de sa ressemblance avec James Brown. Lee Field est dans le NRV ce soir.
Thank you.
C'était Lee Fields sur France Inter. Bien sûr, la programmation est signée Jean-Baptiste Audibert. Eh bien, le NRV première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes. Ce sera après le journal. On se retrouve toutes et tous avec ça. Le bruit du RER. RER, 40 ans que ça rame. Le rendez-vous est pris. Alors, à tout de suite.